Bonsoir David Fonkinos.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous pour nous parler de numéro 2 qui est sorti aux éditions Gallimard et qui raconte l'histoire du deuxième, du Harry Potter qui n'a pas été sélectionné mais qui a failli être sélectionné pour être Harry Potter. Et vous nous racontez comment ce petit garçon, puisqu'il a 10 ans au moment du casting, va avoir une vie très compliquée puisque ça va pas être facile d'oublier qu'il n'a pas été sélectionné, Harry Potter étant cette saga qui a...
Très peu connue.
Intimiste.
J'ai voulu donner un petit coup de pouce, en fait.
C'est gentil.
En parlant un peu, et ils sont très heureux. Quoi.
Et ça a marché ?
Même si mon livre est non autorisé par J.K. Rowling. Hein.
Ah bon ?
Bah oui, c'est marqué au début du livre, il y a une petite mention.
Non mais c'est sérieux ?
Oui. Oui. Bon, si vous ouvrez le début du livre, vous verrez un livre non...
Ah oui, mais moi j'ai cru que...
Ah non, c'était, ça peut pas être une blague chez Gallimard. En plus, on a le même éditeur. C'est une formule juridique aussi pour... évidemment, mon livre est bienveillant autour d'elle et son univers, mais quand même, utiliser les éléments de sa vie, de toute la jeunesse du film, on n'a pas eu son approbation. Moi, je lui ai écrit, mais elle m'a pas encore répondu. Mais bon, j'espère qu'elle me répondra bientôt. Mais souvent, ça va pas. Il faut savoir qu'elle, c'est vraiment énormissime. Hein. Donc, c'est un état dans l'état en Angleterre. Donc, c'est vrai que ça se trouve, elle a même pas été tenue au courant de ce projet.
D'accord.
Et de toute façon, pardon, je vous ai coupé.
Hein, non, mais je
mon
vous
livre
en
est bienveillant.
En fait, on est là pour vous écouter en même temps, donc c'est
non. Non, les gens sont venus vous voir. Et ils sont très heureux. Comment allez-vous en ce moment?
Bah,
ça va bien.
Je vais pas trop mal. Écoutez,
bon, alors, ça va.
Je dois dire. Mais en dehors de cet élément-là,
oui.
Donc qui est très sérieux, vous avez quel rapport avec la saga Harry Potter ?
Ah, j'ai un rapport très très éloigné. En fait, je connaissais pas très bien. Et d'ailleurs, mon livre ne parle pas du tout de Harry Potter. Il faut pas connaître Harry Potter pour rentrer dans mon livre, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas très bien. J'avais vu quelques films avec mon fils. On était allé une fois à Londres voir les studios, donc quand même, voilà, plutôt avec lui, mais j'avais pas lu. Et j'avais pas, je connaissais pas non plus très très bien. Mais il y a 2 ans, ils ont passé sur TF1 les films d'Harry Potter. Et je me suis dit, tiens, je vais en regarder un au début du confinement. Et moi, j'aime bien aller sur les pages Wikipédia, Allociné pour glaner des informations, pour apprendre un peu plus qui a réalisé, comment le film s'est fait. Et là, je lis toute une interview de la directrice de casting qui raconte qu'ils ont auditionné plus d'une centaine d'acteurs, quoi. Il fallait chercher. Qui interpréterait Harry Potter? C'est vrai que ça s'annonçait comme un film énorme et peut-être même déjà plusieurs films, puisque J.K. Rowling avait annoncé déjà écrire 7 tomes. Et elle raconte ce truc dingue qui est qu'à la fin, il n'en restait plus que 2. Et elle dit, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Donc moi, immédiatement, j'ai pensé à l'autre. Mais je sais pas, ça me paraît d'ailleurs, je pense que n'importe qui, en lisant ça, se doit se dire, mais l'autre. Mais il est passé si proche, en fait, parce que ça s'est vraiment joué à peu. Ils ont hésité entre les deux. Et c'est un tel rôle, c'est un tel changement de vie. Ça peut faire rêver n'importe quel enfant de 10 ans de vivre cette aventure extraordinaire. Et je pense à quel point ça a dû être violent. Et la particularité, en plus de cet échec, c'est que non seulement... Enfin, c'est difficile d'oublier ou de digérer un tel échec, parce qu'il va être confronté en permanence à la saga Harry Potter, donc à ce qu'il a raté.
Il vous a écrit depuis ?
Tout à fait, d'ailleurs, il va arriver là, il vient... Non, alors, j'ai pas de contact avec lui. Mon livre est un roman, même si toute la première partie du livre raconte... Enfin, toute la première partie, disons, au début du livre, je raconte toute l'histoire de J.K. Rowling, donc, parce que c'est vrai que je connaissais pas bien, mais je me suis intéressé à ça, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je sais pas si vous connaissiez... son parcours, sa vie, mais j'ai trouvé ça totalement passionnant de raconter. C'est tellement romanesque, cette femme qui a 25 ans, qui vit d'aide sociale, qui est désespérée, qui est une femme battue, seule avec sa fille, sa mère est morte, enfin vraiment une situation terrible. Et puis elle se réfugie comme ça dans l'écriture, dans l'imagination. Et puis suite à une succession quand même de petits hasards, de chances, de bonnes personnes au bon moment, tout ce que je raconte dans le livre, elle va devenir la star planétaire qu'on connaît. Et donc, c'est un conte de fées à l'état pur. Donc ça, tout ça, c'est vrai que j'ai travaillé autour de ça et de raconter aussi comment le producteur a obtenu les droits du film avant même la publication. C'est incroyable, en fait, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même avoir du nez pour sentir que ça allait être un tel phénomène. Personne ne pouvait imaginer ça. Et donc, ça, c'est la partie réelle du livre. Après, évidemment, si le point de départ est totalement vrai, à savoir que le casting s'est joué entre ces deux acteurs, on est dans le roman.
Mais c'est là où il est particulièrement fort, ce roman, c'est que d'un côté, vous racontez le conte de fées pour J.K. Rowling et l'échec absolu pour ce héros qui n'a pas été pris. C'est-à-dire que dans le même livre, vous racontez une définition du hasard qui peut être dans l'excellence comme...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le hasard fait bien les choses, mais... On voit bien dans mon livre qu'il peut aussi très mal les faire, quoi.
Et c'est
il y a une succession d'événements qui font que ce petit garçon se retrouve vraiment malgré lui en finale de ce casting parce que pour plein de raisons il ressemble à Harry Potter. Enfin, c'est vraiment parfois le destin nous pousse vers les mauvaises situations, c'est certain. Et en tout cas, on se rend compte que ça peut basculer du bon côté comme du mauvais côté très facilement et très rapidement. Et ce qui m'intéresse moi, et c'est plus le sujet central du livre, c'est comment il va surmonter cet échec et comment on arrive à surmonter d'une manière générale les échecs, le fait de se sentir numéro 2, le fait d'avoir été écarté, de ne pas avoir été désiré, comment intégrer. Je vais pas dire que c'est un roman initiatique, hein, parce que j'ai pas envie d'aller jusque-là, mais en tout cas d'essayer de comprendre comment ce qu'on a raté dans la vie peut se transformer d'une manière positive.
Alors, ce livre, il arrive quand même à un moment donné où, dans la société, on laisse une grande place à l'échec. On parle beaucoup de l'échec.
Ah oui ?
Il y a des livres sur la...
parce que je sors en même temps qu'Houellebecq ou... Non, mais pourquoi ?
Je dis ça parce que c'est vrai.
Ah oui, on parle beaucoup de l'échec, c'est vrai. C'est
bah,
vrai.
En tout cas...
Parce que moi, on m'a plutôt dit le contraire.
Ah !
On m'a dit, on est dans une société où on valorise beaucoup, de plus en plus, la réussite, la nécessité de la réussite. À cause des réseaux sociaux, on vit sous la dictature de la réussite des autres, que c'est extrêmement oppressant finalement de voir tout le bonheur des autres, enfin le prétendu bonheur des autres, et que on est dans une société où voilà où peut-être davantage encore on doit être performant d'une certaine manière parce que on est en comparaison, ce qui est absurde, hein, et ce qui est pas du tout, comment dire, épanouissant. Mais j'avais plus ce sentiment-là. Mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de l'échec.
En tout cas, maintenant, on trouve beaucoup de publications, facilement, qui valorisent l'échec dans le côté, finalement, c'est aussi grâce à l'échec qu'on se construit et qu'on
oui.
avance.
Et notamment le très bon livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. C'est vrai. Ça, c'était un livre que j'ai trouvé très intéressant. Et parce que c'est vrai que... On se rend compte que voilà, évidemment, il peut. Enfin, pour moi, j'estime que toutes les situations ont leur complexité, ont leur côté positif, leur côté négatif, y compris dans la réussite, dans le succès. Chaque situation a sa problématique. En ce qui concerne l'échec, si tant est que on n'ait pas une vie qui soit entièrement et d'une manière totale et définitive traversée par l'échec, c'est évident que si ça reste un parcours ou à un moment donné où vous traversez des difficultés, ça peut être effectivement positif. Et d'ailleurs, c'est un discours que va tenir le psy face à mon personnage principal, sauf qu'il va lui dire oui, parfois c'est important de rater les choses pour les comprendre, pour les réussir par la suite. Et d'ailleurs, je voudrais te parler de l'exemple de J.K. Rowling qui elle-même au début a eu beaucoup d'échecs. Donc le pauvre garçon qui est désespéré de pas avoir le rôle, même quand il va chez le psy lui parle de J.K. Rowling comme exemple de il faut croire en sa chance et en son destin, et que après les échecs il peut avoir de la réussite.
Mais vous avez toujours eu ce regard assez bienveillant et tranquille sur l'échec, en disant bon ben alors il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque situation. Vous avez toujours eu cette faculté à être détendu.
Oui, mais moi je suis quand même. Je me rends bien compte, moi je viens pas du tout d'un milieu littéraire, je me rends bien compte aussi de la chance que je peux avoir aussi de maintenant de pouvoir vivre de ce que j'aime. Et mais plutôt, vous voulez dire dans mon existence, oui, parce que moi j'ai été gravement malade, et comme tous ceux qui ont été gravement malades, je pense que on a aussi un rapport à la vie qui est plus, comment dire, on sait savourer le côté positif des choses. Ça ne veut pas dire que je vis dans un optimisme débordant ou que je suis un excité de la vie. Mais disons que je vous avais raison là-dessus. C'est vrai que souvent, quand j'ai ça a été dur sur le moment. Hein. On vit tous des trucs difficiles, hein. Même dans la vie amoureuse, quand on n'est pas aimé, quand on... Enfin, on vit tous des moments où on est numéro 2. Il y a toujours un moment donné ou un autre où on est soumis au désir ou au jugement de quelqu'un d'autre et que c'est pas toujours à notre avantage. Mais donc j'ai pu avoir des moments comme tout le monde de difficulté par rapport à ce que j'ai pu vivre. Mais oui, j'ai plutôt une tendance à essayer de voir le verre à moitié plein, comme on dit. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai raconté une anecdote où moi, j'ai pas toujours eu du succès avec mes livres. Enfin, c'est-à-dire que j'ai publié pendant une dizaine d'années. C'était plus confidentiel que maintenant. Et j'en avais aucune amertume. Je me disais, j'ai beaucoup de chance déjà d'être publié, d'avoir quelques lecteurs. J'étais pas du tout dans l'aspiration de davantage. Et j'avais raconté tout à l'heure que j'avais vécu une rencontre littéraire à la FNAC il y a une quinzaine d'années, et avec une seule personne dans la salle. Et donc je me dis, bon, bah là, en termes de réussite, on est quand même très très loin, quoi. Et donc je dis à l'animateur, on annule, hein, parce que là, bon, on va plutôt discuter avec cette femme au café d'à côté, peut-être boire une bière. Et elle me dit, moi, j'étais pas du tout là pour vous, parce que j'ai oublié mes clés et que j'attends que mon mari rentre à la maison. Et alors là, en fait, j'ai trouvé ça tellement... En fait, c'est un échec assez flamboyant, quoi. En fait, quitte à rater les choses, vaut mieux les rater bien, quoi. Ouais. D'une manière un peu... voilà, ça avait du panache, hein.
Ouais.
Donc, ouais, c'était une bonne soirée, un peu de loose, mais j'avais vraiment aucun... c'est étonnant, hein. Je peux le dire, enfin, même quand je faisais des dédicaces des salons du livre, je me retrouvais toujours à côté d'auteurs. Je sais pas, une fois, je m'étais à côté de Giscard d'Estaing. Les gens se mettaient sur mes livres pour faire les chèques et tout ça. Enfin, tous les auteurs vivent ça plus ou moins, quoi. Maintenant, moi, je sais pas, avec la délicatesse, je suis passé d'un coup du côté des auteurs qui ont du public. Je fais toujours hyper attention. Mais après, en plus, moi, quand j'ai publié La Délicatesse, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi ce livre, d'un coup, il a été numéro un des ventes pendant un an et demi. Je me suis dit, je sais pas pourquoi les gens se sont emparés de ce livre.
Vous savez pas ?
Non, non, à ce point-là, non. C'est peut-être que c'est le premier livre où il y a toujours l'humour, peut-être, de mes premiers livres, mais avec un fond de gravité. C'est vrai que c'était l'histoire de Nathalie qui vivait un deuil, qui perdait son mari, qui renaissait d'une certaine manière en rencontrant un Suédois dépressif. Ça, c'était avant de faire le film avec Audrey Tautou et François Damiens. Et d'ailleurs, souvenir mémorable à Bordeaux de l'avant-première. Bref. Et donc, peut-être que j'ai mis plus de gravité et plus de réalisme dans ce livre-là. Et surtout, j'y ai mis, alors sans m'en rendre compte du tout, parce qu'à l'époque, j'ai reçu énormément de lettres de femmes ou d'hommes, hein, qui étaient en deuil et qui me disaient, mais comment vous avez pu ressentir ce que j'ai... Et je ne savais pas trop, en fait, et j'ai compris que j'avais mis mon expérience de la mort, du retour à la vie, après ma grave maladie, j'avais mis des choses très personnelles, et je m'en suis rendu compte bien plus tard que finalement, tous mes livres tournent autour de ça. J'étais obsédé par Charlotte par Charlotte Salomon quand j'ai écrit Charlotte. Et toute la vie de Charlotte, elle est sur comment la création sauve sa vie, comment elle arrive à surmonter l'horreur par la beauté. Et en fait, tous mes livres tournent autour de ça. Et celui-ci aussi, c'est comment se réinventer, comment survivre à un échec. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. Mais la délicatesse, non, je ne pouvais pas imaginer, comprendre. Et après, je vais vous laisser parler. Hein.
Ah non, non.
Et
mais
après, c'est vrai, mais j'ai un esprit d'escalier là.
C'est bien, allons-y.
Et après, j'ai comment dire... je me suis dit, c'est très tellement étrange, le livre, les gens, voilà, il a un tel succès. Et je me suis dit tout de suite, surtout, tu n'écris plus ce même type de livre. Tu dois toujours chercher à faire autre chose. Ça me paraissait évident pour moi de pas de devoir, quitte à perdre mon public, quitte à décevoir. Mais c'est vrai que j'ai écrit à chaque fois des livres très différents. Charlotte, c'est vraiment si loin de la délicatesse. Et ce qui est très émouvant pour moi, je termine là-dessus, c'est au-delà du succès, c'est ce qui est le plus émouvant pour moi, c'est que mes livres, aussi différents puissent-ils être, sont suivis par les lecteurs, avec certains lecteurs qui me disent « bon, bah ça, j'ai moins aimé, celui-ci, j'ai moins adhéré », ce que je comprends tout à fait d'ailleurs, mais bah, je vais lire le nouveau pour voir ce que vous allez nous faire.
Alors c'est très différent, et en même temps, comme vous le dites, il y a quand même un goût de David Fonkinos dans ces livres-là. Entre Charlotte et numéro 2 aussi, il y a, et avec la délicatesse, il y a cette mort, en tout cas, d'une partie de soi. Alors, bon, chez Charlotte, c'est une mort tout court, on va dire.
Mais Charlotte, en fait, je me suis rendu compte, moi, j'étais obsédé par elle. Obsédé par son travail, par cet artiste. J'étais totalement désespéré à l'idée qu'elle soit oubliée. Et c'est vrai que le succès du livre a été au-delà de tous mes espoirs pour la mettre en lumière. Tout à l'heure, on était avec les jeunes lycéens qui lisent le livre, qui la connaissent, qui parlent d'elle comme si elle existait. C'est bouleversant parce que c'était vraiment mon rêve absolu. Mais j'ai compris bien plus tard pourquoi j'étais à ce point-là. C'est un livre d'obsession, c'est un livre d'admiration. Mais elle a écrit cette phrase dans son œuvre parce que c'est une peintre, mais elle est accompagnée de beaucoup de textes littéraires. C'est ce qui me fascine aussi chez elle, c'est cette totalité artistique. Et elle a écrit une phrase incroyable. Elle a écrit « Il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement ». Et je me suis dit « Mais c'est incroyable, c'est le slogan de ma vie ». Et je me suis dit « Mais parfois, on est attiré sans comprendre pourquoi... tout à l'heure, je disais qu'un coup de foot, c'est comment dire, c'est reconnaître quelque chose qui existe déjà en nous. Et c'est vrai que j'étais vraiment, moi, en attirance pour cette œuvre, pour sa personnalité. Et je me suis rendu compte à quel point elle... ce que je veux dire, c'est que j'ai pas immédiatement saisi la dimension personnelle. J'ai pas saisi immédiatement à quel point elle faisait écho à ce qui me touchait, quoi. Donc, alors, faut suivre ses sensations aussi.
Oui, oui. Et Martin, donc, oui. Ce jeune homme qui a failli être Harry Potter se réfugie dans les musées. Et alors, moi, ça m'a fait penser à Charlotte aussi, qui, quelque part, se planque dans sa peinture. Mm. En tout cas, c'est un refuge, c'est un endroit de paix.
Mm. Complètement. À vrai dire, c'est vrai, il y a un autre livre intermédiaire, c'est Vers la beauté.
Oui.
Et où j'avais écrit sur les musées, sur le gardien de musée. Et Vers la beauté était effectivement un écho à Charlotte. Et là, il se réfugie aussi au Louvre, parce qu'il essaye de vivre sans être confronté à Harry Potter, ce qui est très difficile. Donc il se dit qu'au Louvre, au moins, entre les momies égyptiennes et les tapisseries antiques, il sera à l'abri pendant quelques heures. Et là, stupéfaction, il va découvrir toute une armée de numéro 2 là-bas. Tous les gens qui fuient le contemporain, le finaliste du Goncourt 78 face à Modiano, une ancienne première dauphine Miss France, voilà, une véritable armée de numéro 2 au Louvre.
Mais vous, ça vous fait ça, la peinture ?
Moi, je pense que c'est vrai que c'est le thème principal de mes livres, c'est le sujet de Vers la beauté, qui était une prolongation de Charlotte. C'est l'idée que l'art nous sauve, nous console. C'est totalement ce que j'ai vécu. Moi, j'étais pas issu d'un milieu culturel et que les mois à l'hôpital et le fait d'avoir frôlé la mort m'a propulsé dans une énergie de beauté, de sensibilité. J'ai été ému par les livres pour la première fois, par les phrases. Après, je suis sorti, j'allais au musée. J'ai eu besoin, mais je pense qu'on a tous besoin de beauté, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le regard de ses proches, que ce soit dans un culte, dans un lieu de culte, que ce soit dans des paysages, que ce soit dans l'art, évidemment. Et donc, moi, c'était le sujet principal, ouais, de Vers la beauté d'un homme qui... À un moment donné de sa vie, quittait tout et devenait simple gardien de musée parce qu'il avait besoin de se consoler d'un drame qu'on comprend plus tard par la beauté, par la contemplation de la beauté. Et finalement, c'est le thème assez assez récurrent de mes livres.
Et c'est pas le seul, parce que le musée, la peinture, c'est aussi envisager le temps d'une autre façon, le bruit d'une autre façon, l'isolement d'une autre façon. Donc en fait, à travers cette histoire de musée, se déploie quand même beaucoup de choses qu'on retrouve beaucoup dans votre écriture, qui est finalement la nécessité à un moment donné de s'extraire.
Ouais, c'est très juste. D'ailleurs, c'est de plus en plus difficile actuellement. On est dans une énergie tellement de la violence immédiate. Je sais pas, il faut tellement choquer pour pouvoir exister. On voit dans la campagne politique tout le temps une surenchère incessante de mots et de verbes qui nous obligent comme ça à essayer de marquer la journée médiatique. Et donc, c'est assez effrayant de voir à quel point on manque d'analyse, d'apaisement, de recul sur les choses, alors que alors que je crois qu'on est tous capables de comprendre et d'analyser les choses avec finesse et en prenant notre temps. Et je pense qu'il y a peut-être ça aussi dans certains de mes livres. Il y a une sorte de, comment dire, je vais pas dire de combat contre l'immédiateté, parce que je me sens très ancré, très très contemporain, mais pour moi la littérature c'est le terrain absolu qui s'oppose finalement à l'immédiateté acharnée. C'est le terrain absolu de la parenthèse, de la profondeur psychologique, d'avoir le temps d'aller s'approcher d'un personnage et de ce qu'il pense réellement. Pour moi, c'est la magie pour moi de la littérature. Et c'est vrai que je fais aussi des films. Et le cinéma, c'est vraiment l'opposé. Il y a une sorte de nécessité de performance narrative. Il faut tout de suite raconter ou il faut tout de suite comprendre les choses. Moi, j'adore l'idée que dans un roman, on puisse aller si loin dans la finesse psychologique.
Mais alors, en vous lisant et en préparant cette rencontre aujourd'hui...
Je vous félicite.
Tu en remercies. Je ne sais pas ce que je vais dire en même temps, mais bon,
okay. Non, mais vous avez préparé.
Je me suis demandé dans quelle mesure vos livres, d'une façon générale, ne racontent pas ça de vous, puisque là vous choisissez un personnage donc qui est presque pris dans la saga la plus connue du monde entier, ouais. Qui fait un peu écho à Guy Debord, à ce côté la société du spectacle, quoi qu'il arrive, rien ne s'arrête jamais, et qui en même temps a besoin de s'isoler. Et ben, en réfléchissant, je me suis demandé si c'était pas tout à fait vous, avec des moments d'écriture un peu en retrait, au calme, puis en même temps des moments de cinéma, où là, pour le coup, vous êtes avec une équipe, vous êtes dans une énergie. Et du coup...
Ou des moments comme ce soir, oui.
Moi, j'ai trouvé un lien... Enfin, j'ai la sensation de... Enfin, c'est une question que je vous pose, David Foquinos. Est-ce qu'il y a ce lien-là dans votre écriture, dans vos livres ?
Bah, il y a beaucoup le thème du double et d'alterner finalement des énergies contradictoires et enfin qui sont pas contradictoires mais qui se complètent. Moi, je me sens à tous les niveaux, je me sens marqué par ça parce que je suis Scorpion ascendant Scorpion, donc j'aime l'ombre et la lumière. J'aime vous rencontrer ou faire du cinéma ou du théâtre, travailler avec des gens, mais j'aime tout autant passer des journées entières dans la solitude avec les livres et l'écriture. C'est ce qui, d'ailleurs, je pense, me rend le plus heureux. On a tous, je pense, d'ailleurs, en nous, cette énergie un peu double, de faire des allers-retours entre la force et la faiblesse, la certitude et le doute, entre le partage et entre l'extériorité et l'intimité. Et donc... je crois que oui, mais mes personnages sont souvent comme ça. Ils sont un peu dans, comme si je les poussais à vivre des choses pour qu'ils soient intéressants, mais que parfois ils ont une forme de repli aussi. Ouais.
Alors vous y mettez quand même une limite, hein, à l'échec, à cet isolement, c'est-à-dire que pour le coup, bah, vous démontrez quand même à travers plusieurs histoires et celle-ci en particulier que non. Alors la force des fragilités, c'est pas du tout une évidence, et vous montrez quand même la limite qui fait que finalement la honte, la culpabilité peut basculer plus facilement qu'on ne le croit vers la folie.
Vers la folie peut-être pas, mais en tout cas vers le mal-être et la souffrance. Ouais. Moi, ce qui était le plus important pour moi, c'était d'accompagner ce jeune homme. Et c'est vrai que toute la deuxième partie du livre, elle est beaucoup sur le côté de l'enfance abîmée, même maltraitée, puisque je raconte beaucoup ça dans le deuxième livre, puisqu'il a. Il va avoir le sentiment presque de devenir Harry Potter, puisqu'il n'a pas été au cinéma. En tout cas, moi, c'est clairement un livre qui est un cheminement pour essayer de réparer cette douleur. C'est un livre de réparation. Alors, ça paraît extrêmement grandiloquent dit comme ça, mais je l'ai voulu traiter aussi avec beaucoup de légèreté et d'humour, très souvent dans les étapes qu'il parcourt. Mais... je pense que pour pouvoir aider un personnage à se réparer, il faut être en affinité émotionnelle totale avec lui, en empathie très très forte. Et moi, j'ai le sentiment que, je sais pas, j'accompagnais tellement ce garçon et j'étais bouleversé par son âge, par l'idée comme ça d'être aussi malmené à cet âge-là. Mais ce qui m'intéressait, c'est de lui donner les ressources. Un peu incroyable pour pouvoir surmonter ça et de comprendre que bah, peut-être que ça a été bien d'être l'autre.
Bah, l'empathie, c'est un peu quand même l'émotion qui est le fil conducteur de votre écriture, puisque quoi qu'il arrive, et même dans ce livre-là, vous parlez à un moment donné du réalisateur d'Harry Potter qui qui dit ben non, mais ok, on va caster donc un jeune homme, mais il faut qu'il ait, il faut pas exagérer. L'histoire est déjà assez fantastique comme ça. Il faut qu'on reste dans le réel. Mmh. Et vous aussi, en fait,
David, un scénariste, oui.
Ouais. Vous aussi, en fait, c'est ça ce qui vous, enfin, ce qui semble vous intéresser le plus dans vos personnages, c'est vraiment leur dimension tout à fait réelle, voire banale. Comment ils s'en sortent ?
Ah oui, alors non. Non, alors moi là je suis moins d'accord parce que pas tout le temps. Là sur le dernier, il vit quand même quelque chose qui est l'opposé absolu de la banalité. Il vit même un truc hors norme et quelque chose. D'ailleurs, il est le seul atteint de cette pathologie d'avoir failli être Harry Potter. Il est victime d'un truc quand même unique. Donc pour moi, au contraire, j'ai le sentiment que certains de mes personnages vivent des choses extraordinaires. Mon dernier film. Qui est un peu inégal hein, parce que c'est un film à sketch, donc j'ai peut-être raté des choses avec mon frère. C'était sur les fantasmes sexuels, un film avec il y avait Monica Bellucci, il y avait Karine Viard, Jean-Paul Rouff, plein d'acteurs, et ils allaient dans des fantasmes assez extrêmes. Hein. D'ailleurs, c'était assez marrant de montrer le film au public et où chacun me donnait après ses fantasmes. Et certains, par exemple, il y avait un sketch, c'était la dacryphilie, c'était être excité par les larmes de son conjoint. Donc c'était Céline Sellette qui faisait tout pour faire pleurer Nicolas Bedos. Et il pleurait très bien d'ailleurs. Mais donc moi je cherche plutôt, sans être dans l'extravagance, mais j'aime bien chercher la particularité.
Oh oui,
c'est très 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 important.
Mais en même temps, tout ce qui traverse ces personnages, on est tous concernés. L'échec, ça nous concerne tous. Le fantasme, le truc un peu inavouable.
Ah oui, c'était dans ce sens-là que vous disiez ça, d'accord, je comprends.
Il y a quand même... Vous touchez quand même à ce qui ne se dit pas, mais ce qui se vit de façon collégiale. Bah,
moi, je crois que c'est vraiment je vais pas dire un des rôles, c'est un peu pompeux, mais disons qu'une des énergies de l'écriture. Je pense que c'est de transformer l'intimité, soit celle de l'écrivain, soit celle du personnage, et d'aller la partager. Moi, je suis toujours touché quand les gens me disent, j'entends souvent quand même. Hein, me suis reconnu dans cette histoire. Ce livre aussi, ça m'a aidé à comprendre certaines choses. Je trouve que c'est un fort compliment. Bon, après, vous pouvez écrire n'importe quelle histoire de psychopathe, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire c'est incroyable, vous avez écrit ma vie. Mais c'est vrai qu'on a parfois, c'est beau comme on voit les histoires à travers le prisme de son ressenti. Moi, j'aime pas les généralités. Parfois, quand j'ai fait La Délicatesse, on m'a dit alors. Vous pensez quoi des histoires d'amour ou de telle ou telle chose ou de l'usure du couple ou... Moi, je raconte des histoires avec des personnages. Si les gens peuvent s'identifier ou traverser avec eux le même type de choses, ça me touche, mais ça n'a pas vocation à être des livres, comment dire, d'assistance psychologique.
Hein. Oui, oui.
Mais c'est des choses souvent. Par exemple, si on prend un de mes livres, Les Souvenirs. Qui avait été après au cinéma adapté par Jean-Paul Rouve et avec Annie Cordy dans le rôle principal, qui a été bouleversante d'ailleurs dans ce film. Et c'était beaucoup lié à tout le temps que j'ai passé moi dans les maisons de retraite, à accompagner mes grands-parents. C'est des choses qu'on vit tous de toute façon. Donc il y a forcément des choses qu'on partage tous. Et après, c'est une question de point de vue, de façon de raconter les choses.
Mais vous êtes, enfin, vos personnages.
Vous avez envie de me faire dire un truc, mais je sais pas encore.
Non, en fait, j'ai pas envie de vous faire dire un truc, mais je vous interroge sur le fait que vous combattez quand même l'image. Ce qui vous intéresse, c'est le ressenti de vos personnages. C'est pas leur image.
Ça c'est assez juste. En tout cas, je sais pas l'image, mais par exemple, moi, je décris très peu les. Je décris pas du tout physiquement mes personnages, pratiquement très très peu. C'est comme si l'apparence pouvait encombrer la psychologie d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'ai, d'une manière un peu miraculeuse avec mon frère, c'était avant le succès du livre parce que le livre est devenu un succès pendant qu'on tournait le film. Chose très étrange. On a réussi à convaincre Audrey Tautou, donc c'était déjà incroyable à l'époque, un film par an. Le fait qu'elle dise oui, ça a changé le destin du film. Il a pu se monter, La Délicatesse. Et beaucoup de lecteurs m'ont dit, mais pourquoi vous avez pris Audrey Tautou? Je comprends pas. Déjà, ça avait été tellement dur de la convaincre. Enfin, en tout cas, on avait mis tellement d'énergie, de rêve de la convaincre. Et il me disait, oui, mais parce que je comprends pas, parce que dans le livre, Nathalie, elle est blonde. Et je lui dis, mais à quel moment elle est blonde? J'ai jamais écrit la couleur de ses cheveux. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont l'impression qu'elle est blonde, Nathalie? Et en fait, à un moment donné, dans le livre, j'avais écrit féminité suisse. Et parce que j'aime bien mettre des phrases qui veulent rien dire et qui... Non, mais j'adore utiliser les pays comme des adjectifs. Je sais pas, je pourrais dire une ambiance croate ou voilà.
Après, des
une féminité suisse, voilà ou un jeudi polonais, enfin n'importe, enfin, voilà. Et féminité suisse, voilà, ils ont vu ça. Mais c'est dire à quel point je décris pas mes personnages. Et d'ailleurs, après, quand plein de, enfin, je comprends moi quand il y a eu le, j'ai eu plusieurs livres adaptés. Et au bout d'un moment, assez rapidement, j'ai demandé à ce que on enlève l'image, l'affiche du film des folios. Parce que quand on lit La Délicatesse, je veux que le lecteur qui n'aime pas vu le film crée lui-même son propre personnage et n'est pas le visage d'Audrey Tautou ou Camille Cotin dans Le Mystère en épique ou Lucchini. Je crois que c'est important aussi, ça.
Mais ça doit être compliqué. Alors, le moment où on passe à l'image, si vous imaginez vos personnages dans un univers comme ça où ce qui compte, c'est leur ressenti, ça doit être un passage difficile de tout d'un coup mettre un visage.
Non, parce que c'est pas la même chose. Une adaptation, ça reste une autre version de l'histoire. Le problème, c'est quand les gens veulent comparer ou on peut jamais, c'est impossible de comparer entre son ressenti de lecteur qui est unique, qui est la magie de la littérature. Chacun se fait son propre film avec une version qui est la mienne. Donc, non. Je n'ai fait qu'une fois d'adapter d'ailleurs un de mes romans, La Délicatesse. Toutes les autres adaptations ont été faites par d'autres personnes parce que moi je suis content de séparer les deux avec mon frère, c'est mieux. Et puis tout le monde me dit oui, c'est très cinématographique. Là, tout le monde veut adapter numéro 2 parce que il y a un début, un milieu, une fin. Je raconte une histoire, c'est un sujet intéressant, mais moi je suis pas du tout. J'ai déjà refusé des adaptations de certains de mes livres. J'ai pas du tout envie que tous mes livres deviennent des films parce que j'aime bien que certains livres restent uniquement des livres.
En tout cas, celui-là, s'il se fait, c'est le casting, ça va vous préoccuper alors.
Ça va être incroyable. Hein. Peut-être qu'on va aller chercher le vrai numéro 2. Hein. Bon, pour faire ce film-là, il faut l'accord de la Warner
déjà
parce que, à moins de faire un film avec un faux Harry Potter, parfois dans les films, vous avez jamais remarqué par exemple. On n'a pas le droit, moi j'ai fait des films, on n'a pas le droit d'utiliser souvent Google, on n'a pas les droits. Donc regardez les films, c'est souvent Google, ils regardent des trucs qui sont faux. Mais donc je pourrais pas faire un film avec Arrow Bidder, voilà, croire que... Non mais on verra, c'est pas... Déjà l'accueil du livre est incroyable, hein, c'est magnifique pour moi.
Et alors, dans ce livre, quand même, vous n'êtes pas tendre hein, avec Martin. Il n'a pas de bol, quoi. Il vit quand même dans un univers familial chargé. Hein. C'est-à-dire que non seulement il est le deuxième au casting, mais en plus...
Ouais, c'est vrai.
Vous n'aviez pas envie de lui donner un petit coup de pouce par ailleurs, quand même. C'était jusqu'au bout, celui-là.
Non, mais ne me dites pas ça. Mais c'est vrai qu'il traverse quand même des choses assez... Je l'ai un peu malmené, mon petit Martin, ouais. Enfin, on dit Martin ou Martine parce qu'il est franco-anglais. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est un thème que j'ai pas beaucoup abordé, la maltraitance. Il est aux mains. Enfin, je vais pas trop raconter quoi, mais là, il est aux mains d'un pervers psychologique pendant un moment, qui est le nouveau compagnon de sa mère. Moi, j'aimais bien l'idée que. Souvent, je trouve que dans notre époque, on mélange tellement la fiction et la réalité que j'avais envie que si Martin n'a pas été Harry Potter, sa vie, d'une manière étrange, va s'organiser comme s'il allait devenir Harry Potter. Donc, il va vivre beaucoup de choses qui sont très proches de ce que vit le personnage de J.K. Rowling sur cette seconde partie. Mais oui, c'est évident que... Cette époque, cette étape est douloureuse, mais je vais quand même essayer de l'aider, qu'il fasse en sorte, qu'il s'en sorte quand même, non?
Oui, alors, il part aussi.
Vous m'avez tellement culpabilisé là, je me sens.
Parce qu'avant ça, il part déjà d'un papa qui a pas trop non plus le succès en porte-clés. On peut pas dire ça.
Oui, son père, c'est un inventeur un peu raté, ouais. Il a juste inventé la cravate parapluie. Qui est une cravate parapluie, voilà.
qui est une cravate qui sont soit en parapluie, mais bon, elle marche pas
on
très bien.
On a très envie de le voir hein, quand on imagine, on s'arrête, on se dit alors attends,
ouais.
Comment
ouais, voilà, c'est un peu son heure de gloire la cravate parapluie. Mais il est un peu en décalage parce qu'à l'époque, en 84-85, c'était la mode des stylos réveil. Vous vous rappelez de ça, le stylo avec le. Bon, bref, il est un peu en décalage quoi. Mais il est, il va devenir accessoiriste. Et c'est en fait, moi j'adore, moi c'est mon grand plaisir aussi de faire du cinéma, c'est de travailler avec tous ces métiers du cinéma, tous ces techniciens qui sont passionnés. Ça me fascine totalement, les accessoiristes, ceux qui pensent à tout, les petites choses pour un film. Et lui, il va se retrouver sur un James Bond et il va peindre une poignée de porte en verre. Et à chaque fois que le film va passer, il va être hyper content, il va dire c'est ma poignée. Il en a vraiment rien à foutre de Roger Moore et du film, mais alors sa poignée. Et c'est limite, il croit que le succès de James Bond, c'est grâce à sa poignée, quoi. Et j'adore les gens qui aiment ce qu'ils font. Ça me met tous les métiers et tout. J'adore les gens passionnés par ce qu'ils font.
Non, mais alors, à nouveau, on retrouve un petit peu du trait de votre écriture. C'est-à-dire que ce personnage qui a pas beaucoup de bol, quand même, voilà, ouais. Donc on voit bien, hein, ouais. Vous l'avez pas super aidé au départ, mais comme vous le dites, petit à petit, ce qu'on voit, c'est que vous lui dessinez des fenêtres d'émerveillement. C'est-à-dire des petites choses qui...
C'est beau, ça.
Ah.
J'ai piqué, tiens, pour mon prochain livre.
Alors...
Je vais dessiner des fenêtres d'émerveillement. C'est beau, c'est très beau. Je comprends pas tout, mais ça me plaît.
Ça vous ressemble,
non,
quand même.
Hein,
non, ça vous ressemble.
Les fenêtres ou l'émerveillement?
Les deux.
Okay.
Vous aimez bien, quand même, que vos personnages, ils aient comme ça... Je pense, par exemple, dans La Délicatesse, à Nathalie, oui. En fait, ce personnage suisse qui lui offre...
Suédois,
pardon. Ouais. Bah, c'est-à-dire que là, vous nous avez quand même géographiquement un peu embrouillé, hein, pardon.
Totalement, hein, c'est de ma faute. Ouais.
Qui lui offre le
petit pèses, distributeur... Les bonbons
des,
pèses,
voilà, ouais. Des pèses, enfin... La petite chose, des petites fenêtres comme ça que vous ouvrez dans vos histoires qui sont pas toujours joyeuses, sur le tout d'un coup quelque chose de l'enfance un peu quand même.
Mais c'est, pour moi la littérature c'est vraiment c'est le temps du détail aussi. Tout à l'heure on parlait de la lenteur et de la finesse. Pour moi c'est essayer de créer des images. En fait on raconte toujours ce qui compte c'est la narration, la particularité de la narration. Et pour moi, enfin j'ai le sentiment que parfois certaines images doivent être par exemple, quand ses parents se séparent, ce jeune garçon, son père lui fait des sandwichs tous les week-ends.
Typiquement.
Et voilà, c'est ça, une fenêtre d'émerveillement.
Voilà.
Ouais. Ok, j'ai compris. Et c'est pas mal, ça, tiens. Moi, je suis un écrivain, vous savez, moi, ce que j'aime, c'est les fenêtres d'émerveillement. Franchement. Avant, j'étais très fenêtre, mais maintenant, là, j'ai passé un cap. Donc,
les sandwichs.
Les sandwichs, en fait, c'est. C'est une tentative de fenêtre d'émerveillement. Non, mais il garde. Alors, c'est marrant ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est que, il y a quelques jours, il garde les papiers d'aluminium. Il fait la collection, en fait. Il garde le papier d'aluminium que son père lui donnait préparer les sandwichs. Parce que son père prépare avec attention, puis ça le touche. Et puis, c'est. Voilà. Pourquoi ne pas garder les papiers d'aluminium? C'est une collection émotionnelle. Je trouvais que l'image était belle, finalement. Et il y a quelques jours, j'ai fait une interview avec un spécialiste de Harry Potter et qui me dit « Oui, mais alors là, vous avez fait une référence à Harry Potter 5, Neville, qui garde les bonbons, les passages, les trucs de bonbons de ses parents. » Je lui dis « Évidemment. » Non, je lui dis « Mais pas du tout, j'ai jamais lu jusque-là. » Et j'ai trouvé ça assez beau que ce détail, qui est quand même très précis, qui est quand même très particulier, dans un des livres de c'est les bonbons, c'est les papiers d'aluminium, c'est garder finalement, il garde finalement pareil les sachets, le papier des bonbons que ses parents lui donnaient. C'est quand même, il y a de la synchronicité, il y a souvent de l'étrangeté. Parfois, dans l'écriture, je trouve des choses qui voilà. C'est quand même une idée que j'ai jamais lue ailleurs. Et on vient de me dire qu'elle était dans le tome 5 de
et vous,
je suis honnête, hein. J'allais pas vu que tout le monde, les gens qui connaissent, mais il y a deux jours, hier, j'étais à la Grande Librairie et invité avec monsieur Patino, Bruno Patino. Et Bunel a ressorti un extrait d'un livre où je parlais d'un Patino dans Vers la beauté. Et j'avais oublié cette anecdote, mais il se trouve que quand j'écrivais Vers la beauté, j'ai été invité à un voyage et Bruno Patino, qui était le président de il est président d'Arte maintenant, je crois. comme on dit, on s'est rencontrés. Et je lui dis, mais Bruno, c'est incroyable. Écoutez, hier, j'ai, sans savoir qu'on allait se rencontrer, j'ai écrit une page avec un monsieur Patino. Et je lui sors mon ordinateur, je lui montre, regardez, c'est la dernière chose que j'ai écrite avec un monsieur Patino. Et là, il lit, il voit que il est très gratiné, mon Patino. Il est vraiment pas très sympa, quoi. Et je lui dis, mais je peux pas changer maintenant, donc voilà. Donc Bunel a ressorti hier le passage où je dis du mal un peu, enfin où j'ai un patino un peu mauvais dans un de mes livres.
Ok, mais vous,
qu'est-ce ça vous a pas passionné cette anecdote, hein, j'ai senti. Hein. Pourtant, elle était pas mal, mais je l'ai pas bien. Alors je vous la refais du début.
En fait, vous êtes en train de nous expliquer que.
Oui, la synchronicité.
Oui, c'est ça.
Mais plein, non, mais après, il y a parfois avec des choses aussi plus douloureuses, moi, vers la beauté. C'est un livre. Comment dire, il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, ça me touche beaucoup parce que là, beaucoup de jeunes le lisent. Il y a beaucoup de TikTok autour de Vers la beauté. Et c'est un livre qui est assez grave, qui est très douloureux et qui, au début, a peut-être a eu un accueil plus lent, en fait, d'une certaine manière. Enfin, un livre qui a été plus découvert plus lentement. Ça parle d'une certaine manière, je ne veux pas dévoiler du tout, mais ça parle d'une agression.
Oui.
C'était l'été 2017, c'était juste avant l'affaire Weinstein, où que ce sujet vraiment soit au cœur de. Et d'ailleurs, j'étais un peu gêné quand le livre était sorti parce que j'avais peur qu'on puisse penser que j'étais dans cette pas opportunisme, mais en adéquation, je me collais à l'actualité. Donc parfois aussi, je sais pas, j'ai le sentiment que quand on écrit, on est comme une éponge de certaines choses. Non, ça vous plaît toujours pas ce thème.
Si, si.
Bon, alors moi, on va revenir sur la fenêtre. Parce que là, j'ai senti qu'il y avait une fenêtre d'émerveillement.
Non, mais cette histoire d'éponge et de. Alors, oui. On le retrouve aussi.
Dans Bob l'éponge.
Quand vous parlez. Alors, justement, parlons de la biographie de Bob l'éponge que vous avez écrite.
Voilà, ça serait pas mal, ça. Il est grec, hein. Non, enfin, il écoute de la musique grecque. Donc, ça m'irait bien.
Dans ses journées grecques, donc.
Oui. Ah.
Quand vous parlez de Charlotte.
Oui.
Vous racontez que vous revenez à la ligne régulièrement parce que ben vous reprenez votre souffle de cette façon.
Mmh.
Quand vous écrivez Vers la beauté, quand vous écrivez Harry Potter, il y a des moments qui sont assez douloureux.
Mmh.
Comment ça se passe? C'est des moments qui sont plus difficiles à écrire pour vous?
Non, je crois pas. Je crois qu'on peut écrire des choses graves en étant. Vers la beauté, oui, quand même, c'était un livre difficile à écrire. Là, j'étais en empathie avec lui, mais je savais que j'allais l'emmener quelque part qui était plaisant. Enfin, j'espérais. Donc non. Après, on peut tout à fait écrire des comédies en étant très déprimé et d'écrire des choses difficiles en étant dans des moments assez joyeux. Je crois que tout se mélange très souvent.
Et qu'est-ce qui vous
la vie d'ailleurs est. Enfin moi, pour moi, c'est tout le temps comme ça. J'ai le sentiment que on peut rire aux enterrements, pleurer aux naissances. Je sais pas. Il y a une confusion parfois émotionnelle qui est. Tout est. Au fond, il y a aussi de l'absurdité un peu partout, quoi. J'avais vu ça dans un de mes livres, dans les souvenirs. Quand je parlais des maisons de retraite, et je parlais aussi de la dépression des professeurs de l'enseignement. Et quand ils étaient vraiment en dépression, la MGEN, la mutuelle, les envoyait dans des cliniques. Il y a deux cliniques à Paris pour professeurs dépressifs. Non, c'est quand même un sujet douloureux. Et je travaille là-dessus, puis je me renseigne un peu sur le nom des cliniques, et c'est clinique Vincent Van Gogh et clinique Camille Claudel. Je me dis, mais ils sont complètement dingues, on est dans l'absurdité totale, quoi. Donc j'ai l'impression, enfin, je veux dire, quand on est dépressif, on a Camille Claudel, formidable, hein, mais c'est 30 ans enfermé, Vincent s'est coupé l'oreille. C'est pas des exemples de joie de vivre et de réussite mentale, quoi. Je trouve ça hyper. Donc je me dis, tiens, en fait, même dans les il y a de l'absurde tout le temps, il y a des mélanges tout le temps de ces émotions-là. Donc, voilà.
Vous écrivez aussi dans ce livre-là que le bonheur a quelque chose de très bourgeois parfois. C'est-à-dire?
Non, je dis que le bonheur ne s'encombre pas de la condition ouvrière. Parce qu'en fait, ils sont au début de leur histoire d'amour, en pleine grève de. Des routiers sous Thatcher, les parents de Martin dans l'Angleterre des années 84-85. Et donc, quand on est heureux, on est extrêmement égoïste. C'est tout simplement ça. Donc, le bonheur ne s'embarrassait pas à ce moment-là de la condition des ouvriers. donc était un peu bourgeois.
Il y a aussi beaucoup de références très sensorielles dans vos livres. Alors, bon, dans Charlotte, n'en parlons pas, mais les couleurs, le son. Je me suis demandé si vous vous associez des couleurs ou des sons à vos livres.
Oui, oui, c'est étonnant que vous me dites ça. Oui, tout à fait. Moi, j'associe, j'adore, je m'intéresse beaucoup à la synesthésie. Ça me passionne. Et moi, j'associe, je sais pas pour vous, mais moi, j'associe des formes géométriques aux choses. C'est-à-dire que quand j'écris, voilà, ça fait vraiment un peu psychopathe, hein, mais j'ai besoin de voir des ronds, un rond. Quand je sais que je travaille les pages ou tout le roman, c'est à l'aide de formes géométriques. Oui. Donc c'est une forme de parallèle finalement entre des choses très différentes.
Alors numéro 2 aurait quelle forme, quelle couleur?
Il est rond, totalement.
Quel son? Il est rond, d'accord, ouais. Mais il a une couleur particulière?
Non. Je crois pas. Il est la couleur que vous voulez lui donner.
D'accord. Et le son?
Il est le son, c'est le son d'une fenêtre qui s'ouvre.
Ah, mais ça me dit quelque chose.
Quoi? Ah, oui, une fenêtre.
Ça m'évoque quelque chose.
Non, j'associe pas tout. Oh, cela dit, le son, moi j'adore écrire des livres avec une tonalité musicale. Quand j'ai écrit La Délicatesse, c'était totalement Souchon. Charlotte, c'est Schubert. Là, on est un peu avec The Cure, puisque on est dans l'Angleterre des années 80. Et il se rend compte en écoutant The Cure. Et...
D'accord. Donc vous avez et par exemple le mystère de Henri Pic.
Le mystère Henri Pic, c'était assez jazz.
D'accord. Et vous écoutez de la musique en écrivant?
Pas toujours, mais j'aime bien associer. Non. Souvent, j'écris dedans. Non. Bah si vous me le conseillez ou si ça vous fait plaisir, pour mon prochain livre, donnez-moi la playlist.
Non, je vous pose la question.
On s'arrange. Hein.
D'accord. En écrivant numéro 2,
ouais.
Est-ce que vous avez hésité? Est-ce qu'il y a eu des moments dans le parcours de ce jeune Martin?
Bien sûr. L'écriture, c'est que de l'hésitation. Traversé par certains moments comme ça, un peu d'une manière hasardeuse, par des évidences ou par des sensations de toucher son sujet. Mais moi, je doute toujours quand j'écris, mais pas d'une manière... je suis pas du tout chiant avec mon entourage, je suis pas l'écrivain, je doute en ce moment, c'est dur. Mais j'ai pas une grande... je traverse pas du tout l'écriture d'un roman avec la confiance. D'ailleurs, pour tout vous dire, ce livre qui reçoit vraiment un accueil très sympathique, même de gens de journalistes ou de gens qui m'invitent habituellement dans certaines émissions... Et ça m'a vraiment rassuré parce que je pensais que le sujet était peut-être mieux que le livre. Je trouvais que c'était un sujet incroyable, le fait de, enfin, j'étais très excité par cette idée de me dire que qu'est-ce que c'est comme ça d'avoir été si proche de, et j'avais peur un peu de la façon dont j'avais développé cette histoire.
Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions sur l'adolescence?
Oui.
Sur la,
l'adolescence,
à la lecture de ce livre sur l'adolescence, la honte, l'échec, comment transformer l'essai, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes, parce que quand on lit votre livre, en fait, on se rend bien compte que les parents sont un peu démunis.
Je pense que en fait chaque situation est très particulière. Là, il est clair qu'ils sont confrontés à la souffrance d'un enfant qui n'arrive pas à se remettre de cet échec et qui a l'impression que sa vie est ratée. Donc c'est extrêmement douloureux. Et bien sûr que... Mais après, moi, je ne vais pas donner des conseils. Chacun,
c'est pas tout ça. Hein. En fait, je voudrais... Enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est si les lecteurs, en fait, vous font part de cette grande question, qui est une question dont on a beaucoup parlé aussi depuis 2 ans, à cause du Covid, vous voyez, en fait, qui est de trouver les mots justes.
Oui.
La dépression, c'est une chose.
Non.
La dépression adolescente, c'est une autre chose.
Le livre vient de sortir là, on n'en a pas beaucoup parlé de ça. Non, pas pour le moment. On me parle du fait qu'il y a un degré d'empathie supérieure à l'idée que ça soit un enfant. Et qui, mais pas, pas ça.
Et donc, vous aviez envie de, là, de parler donc, de l'enfance maltraitée, mais de la difficulté aussi de pouvoir transmettre les mots justes.
Ce qui est, à mon avis, le plus difficile... C'est comment on voit tellement parfois d'adolescents qui souffrent et qui n'arrivent pas à, d'abord, c'est pas forcément visible et qui disent pas les choses et qui n'arrivent pas à exprimer les choses. Il y a un long cheminement, c'est vrai, dans le livre pour essayer de déverrouiller ça, d'exprimer les choses. Souvent, sa mère lui dit, mais tu me le dis pas assez, tu m'expliques pas assez ce que tu ressens. Et ça, je trouve que, au fond, c'est la chose la plus difficile, je trouve. Que le nombre de fois où on voit de certaines personnes qui enfouissent des drames plus ou moins graves, parfois même quand c'est très grave, c'est très enfoui. Et ce chemin comme ça pour libérer sa parole est extrêmement complexe. Et donc, c'est pas du tout le sujet du livre, très honnêtement. C'est juste abordé en filigrane de l'idée que n'importe quel parent, voyant son enfant en difficulté souffrir, va, ou d'ailleurs pas un enfant, quelqu'un autour de soi, va essayer de l'aider, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que moi, au bout d'un moment, il n'y a que lui qui peut se sauver de sa situation, de trouver la clé. Et c'est pour moi presque une recherche vers sa réparation. Ce livre-là, et il va trouver la clé.
Mais on dira pas laquelle.
Si, alors on va vous dire la fin, comme ça, voilà, vous êtes tranquille.
En écrivant, vous avez fait des recherches sur, vous vous êtes intéressé d'un peu plus près à la dépression.
Non. Je suis moi-même extrêmement dépressif, donc j'avais pas beaucoup de.
Vous êtes écouté. Et...
Non. Je me suis plus. Non. Je pense que. J'ai ressenti vraiment ce personnage et c'est pas un livre sur la dépression.
Non.
Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de recherche à faire sur une pathologie qui est unique, qui est celle d'avoir été, Harry Potter.
Est-ce que c'est un cocktail absolument fou, cette dépression que traverse cet enfant ? C'est-à-dire que dedans, il y a de la jalousie, de la colère, de la peur, de la nostalgie, du chagrin. J'ai essayé de faire une liste, en fait, en me disant, mais finalement...
Non, bien sûr, il traverse toutes les émotions possibles. Et c'est vrai que c'est hors norme, surtout. Tout est démultiplié. C'est unique ce qu'il vit. Il faut imaginer que votre pire échec soit... Et la puissance, marketing de Harry Potter, c'est partout. Moi, j'adore l'idée, c'est ce qui m'amusait aussi, c'est de me dire comment cet homme-là, ce garçon, va essayer de passer à travers les gouttes d'Harry Potter. C'est physiquement impossible de nos jours. On est, comment va-t-il faire pour pas tomber sur la télévision, sur tel sujet, tel... C'est impossible. Et alors... C'est en fait un guide de survie à l'usage de ceux qui veulent pas être soumis à Harry Potter, quoi.
Et alors, en lisant votre livre, on a la sensation que finalement, quand on a frôlé la gloire, on est encore plus petit, encore plus réduit à pas grand chose d'avoir approché. On est
parfois vaut mieux un rattache total que d'avoir été vraiment si proche du succès. Ça, c'est certain. Je pense qu'il y a certaines... on le dit tout le temps que numéro 2, c'est la pire position, parfois, sur certaines compétitions sportives, à part Poulidor, que les gens adorent. Ça peut arriver que ça soit une situation extrêmement... vaut mieux être vraiment dernier, quoi. Parfois. Numéro 2, même Miss, la première dauphine, là, je pense qu'elle est au bout du rouleau, à chaque fois qu'elle voit Miss France à la télé. Alors que celle qui a fini 36e, se dit, bon, c'était pas pour moi.
En fait, le sujet, c'est quand il y a...
Je vais écrire un livre sur les dauphines.
Un millimètre, quoi. Le sujet, c'est quand il y a un petit millimètre avant la ligne d'arrivée, quoi.
Oui. En tout cas, pour lui, oui, c'est certain. Ce qui est intéressant, c'est pas quelqu'un qui a raté le casting, c'est quelqu'un qui a failli et qui est vraiment au bord de ça. Je trouve que de toute façon, c'est un sujet romanesque qui permet de... Vous avez pris tous ces livres-là à dédicacer ? Ok. Bon, on va peut-être aller...
On va arrêter, alors. Parce que là, Je
merci
vais vous libérer. Beaucoup,
hein. Merci mille fois.
Hein. Ah bah merci à vous, David Fonkinos.
Merci pour cette rencontre.